pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. Aujourd'hui, je vous ai choisi Anna Karénine, grand classique de Tolstoï, qui dit beaucoup en peu de mots. Écoutez, « Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. » Anna Karénine, publiée en 1877. Rien qu'avec cette première phrase, on a de quoi méditer. Des romans, nous en lirons plein d'autres avec les libraires de l'émission tout à l'heure. Je vous parlerai aussi d'un nouveau prix littéraire, le prix européen GMF. Et puis nous visiterons la bibliothèque de Valérie Damidot. C'est une fan et même une spécialiste de polar, vous verrez. Mais d'abord, bien entendu, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Bonjour Stéphanie Hochet.
Bonjour.
Vous publiez Pacifique chez Rivage, un sujet fascinant et un roman profond. On va y venir dans un instant, mais d'abord, je voudrais qu'on parle quand même de la sortie de ce livre. Il a été publié tout début mars, mais donc 10 jours avant le confinement et la fermeture des librairies. D'un point de vue extérieur, c'est juste pas de veine. Mais vous, comment est-ce que vous avez vécu ça? C'est une injustice terrible quand même.
C'est-à-dire que ça a été quand même assez progressif parce qu'au début, on pensait vraiment pas que les librairies allaient fermer. Moi, j'avais fait une première rencontre en librairie, une présentation du livre avec Sarah Chiche, qui est aussi romancière et psychanalyste, qui avait bien présenté le livre. C'était une soirée chaleureuse et il y avait effectivement un peu moins de personnes qui s'étaient déplacées que prévu. Mais il y avait quand même du monde. Et 2 jours après, on a appris que les librairies devaient fermer, mais fermer totalement. Et ce qui me surprise, c'était qu'elle devait vraiment fermer au point qu'on pouvait même pas faire du click and collect comme on a fait bien après, en fait, quoi. Donc, c'était même pas d'ouverture de 2 heures dans la journée. Et là, c'était un coup de bambou. C'est assez violent, quand même.
On parlera des coups de bambou tout à l'heure aussi dans votre roman. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler aussi que quand on sort un livre, pour un écrivain, c'est pas seulement appeler son éditeur, savoir si ça se vend bien. C'est très enthousiasmant. Il y a beaucoup, beaucoup de rencontres avec les gens.
C'est un rendez-vous pris avec les lecteurs, c'est un grand moment d'exaltation, c'est le moment où on va pouvoir parler de quelque chose qui nous a pris des années, qu'on a tenu secret, qu'on a tenu à l'intérieur de soi, qu'on a travaillé, retravaillé, c'est un grand projet personnel, donc c'est beaucoup d'espoir, on pourrait même pas l'évaluer en termes d'argent, c'est impossible. Donc c'est beaucoup de déconvenues, effectivement, avec ce qui s'est passé. Heureusement, on est en train de rebondir. Oui. C'est ça qui est intéressant. Et puis il y a eu des belles idées d'interviews en ligne qui ont été inventées, qui étaient plutôt pas mal aussi.
Vous dites qu'on a tenu secret, c'est-à-dire que vous ne parlez jamais des romans que vous êtes en train d'écrire ?
Ah, c'est trop fragile. Je constate qu'il y a quand même beaucoup de romanciers qui parlent peu de ce qu'ils écrivent. Et personnellement, je garde le secret le plus longtemps possible.
Pourquoi ?
Parce que c'est une matrice. C'est en train de se faire. Il y a un pressentiment d'un livre. Il y a un projet qui monte peu à peu. On ne sait même pas à quoi ça va ressembler. Et il ne faut pas qu'il y ait le regard extérieur. Pour que ça, que ça trouble, en fait, on va dire la cuisine du livre. C'est très important, ça, c'est trop fragile. À la limite, on peut éventuellement en parler, mais à la toute fin, et encore moi, j'en parle le moins possible. En plus, je suis un peu superstitieuse, parce que j'ai l'impression que si j'en parle avant la publication, ça va pas lui porter chance, etc. Enfin, on devient un petit peu sensible et superstitieux avec le temps.
Ah oui, c'est pour éviter que quand on évoque le sujet, que les autres disent « Ah, il faudrait que tu parles de ça aussi dedans, et puis il faudrait que tu évoques ça aussi, et puis il faudrait que tu parles à mon grand-père qui a bien connu cette période. »
Non, mais faut surtout pas ça. Ça alors là, on va dans tous les sens. Chaque auditeur aura sa propre perception d'un livre qu'il n'a pas lu. Mmh. Non, un livre, c'est quelque chose qui mérite une maturation et qui et puis en plus, personnellement, je ne sais pas forcément où je vais. Quand je commence à écrire quelque chose, j'ai un pressentiment, j'ai une sensation, j'ai un projet qui s'affine progressivement. Mais voilà, et puis en plus, on a vraiment envie de créer une surprise aussi. Ce serait décevant pour un lecteur de savoir déjà tout d'un livre avant de l'avoir lu. Ça serait gâcher du plaisir.
Alors, ce nouveau roman, on peut le lire. Il s'appelle Pacifique. Il commence comme ça. C'est le narrateur de 21 ans, Isao Kaneda, qui raconte. Je noue le hachimaki aux couleurs de notre Japon éternel autour de mon casque. J'effectue ce geste avec lenteur et solennité, sans pensée, sans émotion. Le froid dans mes veines, le temps s'est arrêté, je suis une fleur de cerisier poussée par le vent. C'est l'histoire d'un pilote japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et son escadrille a été choisie pour devenir un kikusui, un chrysanthème flottant. C'est très poétique, mais plus prosaïquement, ça veut dire kamikaze. Ils ont une manière de présenter les choses. Malheureusement, le mot kamikaze est assez connu aujourd'hui avec les attentats. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le kamikaze japonais, Stéphanie Hochet?
Alors, le mot kamikaze a été construit, a été inventé en 1945. On cherchait un mot, les Japonais ont cherché un mot qui n'existait pas encore pour parler de ces pilotes qui allaient se sacrifier. Donc, le terme, en fait, veut dire vent divin. Donc, c'est vraiment ce désir d'apporter de la poésie à des actes qui sont des actes guerriers, qui est très impressionnant, qui m'a beaucoup marqué. Et ces vents divins étaient destinés à traumatiser l'armée américaine et à répondre d'une façon, on va dire, très violente à une guerre qui était en train de se perdre et qui, au fond, ne pouvait pas... ne pouvait pas rendre le Japon victorieux. C'était aussi la preuve, d'une certaine façon, que le Japon avait déjà perdu la guerre. Parce que là, ce sont des bons pilotes qui partent se faire tuer. Le Japon ne pourra jamais gagner la guerre de cette façon-là. Mais c'est, de la part des généraux, c'est une façon de vraiment de marquer les esprits, de traumatiser les Américains, de tenter le tout pour le tout. Et ce mot kamikaze est né en 1945. Il n'existait pas auparavant. Et malheureusement, il est utilisé aujourd'hui, alors que les différences avec les kamikazes actuels sont énormes. Déjà, les kamikazes de l'armée du Grand Japon n'avaient comme cible que des militaires, donc des bateaux américains. Il était hors de question de frapper des civils. De toute façon, on n'en était pas là à ce moment de la guerre. Ces kamikazes n'avaient pas décidé de devenir kamikazes. Ils étaient entrés dans l'armée, parfois avec beaucoup de patriotisme. Ils avaient vraiment le désir de défendre leur pays, leur empereur. Ils avaient parfois beaucoup de nationalisme en eux, mais énormément de jeunes kamikazes, comme je l'ai découvert, partaient malgré eux.
Oui, mais alors, faut dire, et c'est dans le roman, qu'on leur pose la question de cette manière. Je vous lis encore, c'est difficile de refuser. Ceux d'entre vous qui ne veulent pas donner leur vie pour notre grand empire nippon n'y seront pas forcés. Qu'ils lèvent la main. Ceux qui ne se sentent pas capables d'accepter cet honneur, qu'ils lèvent la main. Qu'est-ce qui se passe si on refuse? En fait, c'est même pas envisagé, cette situation.
Et là, ce sont les véritables mots qui ont été prononcés à l'époque. Hein. C'est parce que je me suis évidemment beaucoup documenté, donc c'est la traduction exacte de ce qu'on leur disait, de ce que le capitaine leur disait. C'est-à-dire que c'est un non-choix. On propose, enfin, on présente ça comme un choix. Levez la main si vous ne désirez pas participer à cette mission spéciale, comme elle était présentée. Mission spéciale égale mission suicide. Sauf que l'armée du Japon étant ce qu'elle est, je pense que chaque pilote savait que s'il refusait de partir, il allait être exécuté. C'est évident. L'armée à cette époque-là est une armée d'une grande dureté, d'une grande cruauté, qui leur fait faire des choses extrêmement dures, qui a déjà colonisé une partie de l'Asie, du Sud-Est, etc. On a vu comment ils se sont comportés. Enfin, bref, c'est une armée, on va dire, fasciste. Donc, il n'y a pas de choix.
Il n'y a pas le choix, et il va y aller quand même. C'est pour après-demain, lui dit son chef, et on va découvrir ce qui lui arrive et comment il en est arrivé là dans un instant. À tout de suite.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, toujours avec Stéphanie Auchet pour évoquer son magnifique roman Pacifique, l'histoire d'un Japonais en avril 45. Il est kamikaze, il est censé faire plonger son zéro, son avion, dans un croiseur américain. Stéphanie Auchet, c'est pas « je suis courageux, je vais me battre pour la patrie, advienne que pourra », le contrat c'est mourir. Et est-ce que ça reste une forme de courage malgré tout? Il se pose la question, le héros, parce que ça le fait un peu douter. On est en 45, la guerre est pliée, et il a entendu une phrase qui lui trotte dans la tête, il n'y a rien d'honorable à mourir pour une cause perdue.
C'est quelqu'un de très partagé parce que il est tout à fait prêt à partir et à donner sa vie si c'était pour sauver son pays, sauver des civils, sauver l'empereur. Mais il se trouve que les dernières missions suicides, les dernières attaques spéciales ont été des échecs. Et évidemment tout le monde le sait. Donc les pilotes savent que les dernières actions, les dernières missions suicides se sont conclues par l'échec des pilotes. Ça ne sert à rien. Donc il sait qu'on va l'envoyer au casse-pipe et qu'en plus, il n'y aura même pas un intérêt pour l'armée japonaise. Donc là, c'est quand même, on va dire, le centre même de son dilemme, le bouillonnement intérieur qui commence à monter en lui, c'est « oui, je serai prêt à partir, mais... » Y a-t-il quelque chose d'honorable à mourir pour une cause perdue? Parce qu'évidemment que la cause est perdue. Mais bon, on va dire que tout ça, c'est ce qui se passe. C'est cette tempête sous un crâne qui m'intéressait. C'est ce dilemme. En plus, c'est pas quelqu'un qui rejette l'Occident. C'est quelqu'un qui a reçu une éducation où l'Occident joue un grand rôle.
Et voilà. C'est ça ce qui est superbe dans ce roman aussi, c'est que Isao Kaneda, le héros, il est partagé, vous l'avez dit, il n'est pas comme certains de ses copains fanatisés, parce qu'il a été certes éduqué dans une tradition de samouraï, il est issu d'une famille de samouraïs, et quand il était petit, il jouait à se faire seppuku avec une branche de cerisier, comme les samouraïs se suicidaient avec leur sabre pour laver leur honneur, mais en même temps, il n'est pas tout à fait convaincu par la méthode kamikaze elle-même. Rien que le fait de penser à cette idée, de penser à ses doutes, ça l'effraie. C'est ce tiraillement par son éducation qui est intéressant.
C'est ça, je voulais pas parler de quelqu'un qui était une tête brûlée, parce que là on avait affaire à quelque chose de trop simple. Je veux dire, les têtes brûlées, il y en a eu. Il y a des jeunes gens qui étaient littéralement hallucinés par l'idée d'aller jusqu'au suicide pour devenir un héros. Parce qu'on leur disait, voilà, vous serez des héros, vous irez rejoindre les samouraïs, les plus grands guerriers de l'époque, de toutes les époques japonaises. Lui, il n'est pas comme ça. Il est prêt à se battre, il est prêt à se battre jusqu'au bout, mais il n'est pas assez stupide pour penser que non seulement ça a un impact, mais qu'en plus c'est une belle mort si cette mort ne sert à rien. Cette mort ne sert à rien. En plus contre un ennemi qui effectivement est en train de gagner et qu'il ne déteste pas totalement. Donc comme c'est quelqu'un qui a reçu une éducation littéraire, il a été élevé par un précepteur qui lui a fait découvrir les lettres, par exemple la littérature anglaise ou des choses comme ça. Il n'a pas de rejet envers l'Occident.
Et il respecte le Bushido, le code d'honneur. Et c'est cette question de l'honneur qui est très présente dans le livre. C'est ça ce qui vous a mené vers ce roman? C'est comment on gère ce sentiment-là très particulier qu'est l'honneur?
Oui, mais c'est beaucoup de choses en fait. Ce que je trouvais très beau, c'était ce mélange d'exigence morale et en même temps de délicatesse infinie. C'est-à-dire de voilà, il est par exemple dit dans le Bushido qu'un guerrier doit être prêt à avoir un peu de poudre de riz sur lui pour pouvoir se maquiller avant de mourir et conserver un teint de cerisier en fleurs. Il y a des choses magnifiques et cruelles, et c'est ce mélange de terreur et de poésie délicate qui moi m'attirait particulièrement. Et puis aussi cette histoire de sacrifice qu'on connaissait mal en fait, parce que jusqu'à présent, d'après mes recherches et d'après ce que je lisais, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui prenait le point de vue du kamikaze japonais. Et finalement, on les prenait toujours un peu pour des fous, des monstres, des fanatiques, etc. Alors que aujourd'hui, on sait, les preuves historiques sont là, on sait que ce sont des sortes de malgré nous. Ce sont des jeunes gens qui pleurent le soir, qui écrivent des lettres à leurs parents qui sont bouleversantes, qui préféreraient ne pas partir, etc. Il y a vraiment un malentendu total sur ces jeunes gens. Et je trouve que cette histoire de jeunesse sacrifiée, au nom d'un fanatisme qui est celui de l'armée, et qui est celui des généraux, est un sujet qui ne peut que nous émouvoir.
Alors, il y va, hein, il faut y aller. Donc, il décolle, on commence à flipper un peu, et puis là, panne de moteur. Et alors, on flippe encore plus, bizarrement, parce qu'il est censé se poser sur... il va essayer de se poser, ça ne sert à rien, il ne va pas s'écraser dans l'océan, ce serait ridicule. Donc, il va se poser pour éventuellement essayer de réparer ou contacter quelqu'un pour recommencer plus tard. Mais quand il se pose sur la plage, en fait... C'est pas qu'on est déçu pour lui, mais on comprend son désarroi, parce que lui, il sait que rien que ça, c'est une grande honte, quoi.
C'est ça, il a échoué. Alors, il se trouve que, en fait, on donnait juste la quantité de kérosène aux avions pour que les pilotes puissent remplir leur mission. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de kérosène pour revenir.
Oui, il n'y a pas de retour.
Pas de retour. J'ai découvert qu'il y a eu beaucoup de miraculés finalement, parce que des avaries de moteurs, un manque de kérosène, etc. Et tout d'un coup, les pilotes comprennent qu'ils ne peuvent pas parvenir à la cible, donc ils sont obligés d'amerrir ou d'atterrir. Et il se trouve qu'ils trouvent une minuscule île quelque part, et puis ils parviennent... avec un peu de chance, à atterrir sans trop se blesser. Et effectivement, là, c'est la honte absolue. Et alors, généralement, et c'est ce qu'il va tenter de faire, mais généralement, ce que faisaient les pilotes, c'est de tenter de recontacter leur hiérarchie.
Il n'y a pas de radio.
Il n'y avait pas de radio. Et puis, donc, le but, c'est de trouver quelqu'un sur l'île qui va contacter la hiérarchie. Mais on va voir que bon.
On raconte surtout pas la suite. C'est un magnifique roman pacifique. J'ai une question un peu annexe avant de vous laisser.
Oui.
Il se trouve qu'Amélie Nothomb a perdu son père le 17 mars dernier. Et il se trouve que vous êtes amie avec Amélie Nothomb, m'a dit ça. Et elle vous a transmis une lettre que son père a écrite sans avoir eu le temps de l'envoyer. Elle vous était destinée, il disait à quel point il avait aimé votre roman, qu'il qualifiait même de chef-d'œuvre. C'est quand même très, très émouvant.
C'est bouleversant pour moi. C'était quelqu'un qui connaissait évidemment énormément le Japon, puisqu'il a été ambassadeur durant plus de 10 ans, je crois, là-bas. Il parlait la langue, il chantait le no. Il était exceptionnel. En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer, de le connaître un petit peu. Et c'était un grand lecteur. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, beaucoup de savoir-vivre, qui aimait beaucoup les gens. C'était quelqu'un de formidable. Et j'ai écouté la lettre, comme tout le monde, sur France Inter, lue par Augustin Trapenard. Et j'en avais les larmes aux yeux. Je pense que c'est un petit peu comme ça que tout le monde a réagi. Mais pour moi, c'était encore plus bouleversant, bien sûr.
Au-delà de votre exemple particulier, ce n'est pas la première fois qu'un écrivain me parle de quelqu'un qui lui a dit qu'un disparu avait lu son roman et que donc c'était le dernier roman lu. Il y a quelque chose de métaphysique incroyable là-dedans quand même.
Ah oui, c'est très très fort. Et moi, il m'est arrivé de rencontrer des écrivains un peu âgés qui m'écrivaient des lettres. Par exemple, Jacques Chessem avait écrit en 2009 une lettre absolument formidable sur un de mes livres et ça avait été tellement fort pour moi. Et il est mort quelques semaines après. Enfin, c'est toujours des... C'est terrible. C'est terrible de se retrouver comme ça. On a l'impression de perdre quelqu'un qu'on aime terriblement. Et de perdre aussi quelqu'un qui aurait pu nous lire encore. Donc, c'est une grande frustration. Et c'est triste, mais effectivement, c'est peut-être un peu métaphysique. Peut-être que quelque chose est porté au-delà.
Voilà, il y a quelque chose d'immortel. Et je rappelle donc le titre de votre nouveau roman fabuleux, très court d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, 140 pages, très poétique, pacifique, donc chez Rivage. Merci beaucoup Stéphanie Hochet.
Merci à vous.
Dans un instant, toujours des livres, 5 livres, tous sélectionnés pour le prix Europe 1 GM.
14h-15h sur Europe 1. La voix est livre.
Retour dans La Voix est Livre, pas de livre audio cette semaine exceptionnellement, mais 5 romans en échange, 5 romans sélectionnés pour un nouveau prix littéraire, le prix européen GMF. Alors ils ont tous un point commun, au-delà du fait que ce sont tous des romans donc, il s'agit de livres qui mettent en scène des héros, qui s'intéressent aux autres, qui sont dans une forme d'empathie avec autrui. Il y a notamment le très beau livre d'Hugo Boris, Le courage des autres, chez Grasset. Hugo Boris, on le connaît notamment pour Police, un roman adapté au cinéma par Anne Fontaine avec Omar Sy et Virginie Efira. Vous savez, rien à voir avec ce nouveau livre, c'est l'histoire de l'auteur. Justement, Hugo Boris, il est ceinture noire de karaté, figurez-vous, il est vraiment très fort, spécialiste notamment d'un coup de pied terriblement efficace, le Maïgeri, un coup de pied de face. En 2007, il est témoin d'une scène très violente dans le métro. Violente mais banale. Un jeune mec s'est endormi dans la rame. Il se réveille, cherche son sac, mais il a disparu. Alors il se met à invectiver tout le monde. Il prend à partie les voyageurs. Ça tourne mal. Un homme s'en mêle. Ils se battent. Hugo Boris pourrait intervenir, bien sûr, mais il est sidéré. Il a peur, tout simplement. Et il finit par tirer la sonnette d'alarme et il s'en va avec le mouvement de foule. Et donc là, il se dit que quelque chose ne va pas. Comment peut-il décrocher une ceinture noire de karaté et être pétrifié quand il s'agit de se battre pour de vrai? Il a plein d'excuses, mais il les rejette et il s'en veut terriblement. Et il en a fait un livre. Il s'est mis à observer les gens dans le métro ou dans le RER et à noter. Alors, il y a des scènes d'héroïsme et aussi des petits riens très beaux ou parfois une situation drôle ou poétique. Ce sont des choses vues, mais son histoire à lui avance aussi dans le roman. Il avance, il se nourrit et change en observant et nous, on le suit. On est avec lui dans les transports en commun. C'est très beau, très intelligent. Ça se lit comme un recueil de nouvelles très cohérent. On commence un nouveau chapitre en se disant « Alors, qu'est-ce qui va lui arriver cette fois ? Et comment va-t-il réagir ? Trouvera-t-il le courage qu'exige la situation ? » Et on se dit aussi « Et moi ?» Ben, qu'est-ce que je ferais à sa place ? Le courage des autres, donc, chez Grasset, signé Hugo Boris. Deuxième roman sélectionné, Le théâtre des nuits, signé Karl Aderholt, chez Stock. Sur la couverture, on voit deux soldats, des officiers de la Première Guerre mondiale, avec une jeune fille. Ils sont tous sourires, nous sommes en 1916. Karl Aderholt se base sur un fait historique pour construire son roman. Pendant la Première Guerre mondiale, des comédiens se sont rendus sur le front pour divertir les poilus et donc jouer pour eux. Mais l'armée pose quelques conditions. Pas trop de jeunes comédiens, sinon les poilus pourraient se demander pourquoi eux, ils n'ont pas été mobilisés. Pas non plus de pièces patriotiques, du léger. Et pas de contact entre les éventuelles comédiennes et les soldats pour des raisons évidentes. Évidemment, justement, dans le roman, on ne respecte pas les règles. C'est d'abord une histoire d'amour. L'héroïne du roman s'appelle Blanche Beaulieu. Elle est comédienne, donc elle fait du boulevard. Elle est à Paris, elle essaye de faire carrière, c'est pas facile. Mais on lui propose de participer avec Sarah Bernhardt, qui fait partie de l'histoire, à cette tournée théâtrale un peu particulière et c'est parti direction les Vosges. C'est un roman historique, donc il y a une partie romancée, mais sur un fond, un décor historique réel, donc on visite cette période de guerre, on apprend beaucoup. C'est peut-être aussi ou d'abord un roman sur les femmes, sur la puissance des femmes qui s'émancipent des hommes. Troisième roman, celui de Claire Fercac. Oh là là, c'est beau ça, chez Vertical, avec ce titre incroyable, Ce qui est nommé reste en vie. Et justement, c'est un livre sur la vie et sur la mort. Claire Fercac a perdu sa mère il y a quelques années. Elle est morte d'un glioblastome, une tumeur dans le cerveau. Et Claire Fercac essaye d'explorer toutes les facettes de cette expérience terrible parce que précisément, personne ne vit ça de la même façon. C'est donc un livre choral avec plusieurs voix, plusieurs patients et ceux qui les accompagnent. Alors, j'ai dit roman, mais seulement pour ne pas parler de récit parce qu'il y a de la fiction dans ce livre. Mais ce n'est pas non plus une histoire construite où l'on suivrait chaque étape de la fin de vie. Ce sont des voix qui se mêlent, qui résonnent entre elles, avec chacune une manière de voir différente, une intensité différente aussi. Alors, c'est intense, certes, il y a bien entendu de la tristesse et de la douleur dans ce roman, mais pas seulement. Il y a des moments de poésie douce et des moments d'humour aussi. Ce qui est nommé reste en vie. Quatrième, enfin l'ordre est aléatoire, vous aviez compris, c'est le roman de Pascal Grégoire, intitulé sobrement « Monsieur le maire » au Cherche-Midi. Ça commence assez fort, en plein procès, on entre dans le livre au moment du réquisitoire. Le procureur explique que Paul Morand, l'accusé, s'est rendu coupable de meurtre et que ce n'est pas un banal accident comme il le prétend. De la légitime défense, la victime s'appelle Jacques Gentil, c'était un journaliste de l'Ardennais républicain. Et lui, Paul Morand, c'est le maire du village, Lomieux, 1350 habitants. Selon l'accusation, il aurait tué parce que Jacques Gentil enquêtait sur lui. Ce à quoi la défense répond que certes, ils n'étaient pas les meilleurs amis du monde, mais que ça ne constitue pas un mobile pour autant et que par ailleurs, Jacques Gentil harcelait Paul Morand, non pas au nom de la vérité et de la liberté de la presse, mais parce que Paul Morand a battu aux dernières élections le père du journaliste. Toujours est-il qu'il prend 20 ans de prison et le roman commence. Il se rappelle ses 15 dernières années, comment il a décidé, après des études brillantes, de revenir dans le village de son enfance pour devenir maire pour un salaire de 450 euros par mois. Mais il a la foi, il a envie d'être maire, il adore les sujets du quotidien, traiter les petits problèmes des uns et des autres, les grands problèmes aussi. « Maire, écrit-il, c'était la politique en vrai, la politique sans possibilité de se dérober. » Et il revient sur ses 15 dernières années. Ce n'est ni vraiment un polar, ni le journal d'un maire. Il y a les deux dimensions, surtout pas un livre politique en tout cas. C'est le quotidien, le vrai, d'un petit village. Ça se passe donc dans les Ardennes, mais ça pourrait se passer partout en France. Pas un saint, Paul Morand, pas du tout. Parfois, il a fait des conneries, il a cédé à des petites combines. Mais c'est un type qui a fait ce qu'il a pu. Monsieur le maire de Pascal Grégoire au Cherche Midi. Et enfin, le dernier roman sélectionné pour le prix Europe 1 GMF est La Belle Hélène de Pascal Rose. Prix Goncourt Pascal Rose pour Le Chasseur Zéro en 1996. Dans ce nouveau roman, elle raconte l'histoire d'Hélène. Hélène Bourguignon, elle a une soixantaine d'années et elle donne ponctuellement des cours de littérature à Sciences Po. Elle leur parle en particulier de nouvelles. Et d'ailleurs, les chapitres font référence souvent à une nouvelle ou portent le nom d'un auteur, Richard Brautigan, Tchekhov, Robert Musil. On la suit à la fois, elle, dans sa vie de tous les jours et dans ses souvenirs. Elle a perdu les deux hommes de sa vie et elle vit seule. Et puis, on la suit aussi pendant ses cours avec son petit groupe d'étudiants, toujours les mêmes. Elle apprend à les connaître au fur et à mesure. Et nous aussi, ils deviennent tous des personnages de son roman. Ils lisent et interprètent les nouvelles avec nous. Alors, soit on connaît déjà le texte dont il est question et on le redécouvre par ce prisme, soit on ne le connaît pas du tout et on le découvre. C'est plein de surprises littéraires. Ce livre, c'est un livre qui donne envie de lire, en fait. Et c'est doux, c'est plein de bonbons, de friandises à l'intérieur. La Belle Hélène, donc, de Pascal Rose, chez Stock Superbe. Voilà, chaque jour, toute la semaine, toute cette semaine-là, je vous en parlerai un peu plus en détail chez Philippe Vandel à 10h40. Et nous connaîtrons le lauréat dans quelques semaines. Il viendra, bien entendu, nous parler de son livre dans l'émission. Alors, sortons un peu maintenant, tiens, dans un instant. Nous partons visiter la bibliothèque de Valérie Damidot, grande spécialiste de polar. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, il est temps de bouger un peu. Nous partons chez Valérie Damidot, visiter sa bibliothèque et voir comment c'est décoré aussi, forcément. Bonjour Valérie Damidot.
Bonjour monsieur de la bibliothèque.
Bon, c'est n'importe quoi.
Oui.
Moi, je m'attendais à une maison hyper rangée avec des étagères, de la couleur taupe partout, des décalcomanies. Et en fait, c'est une sorte, chez vous, on est à Paris, c'est une sorte d'atelier, de loft, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il y en a partout.
Bah ouais, la maison est devenue une bibliothèque par la force des choses. J'ai toujours rêvé d'avoir une pièce consacrée aux livres avec, tu sais, comme dans les films anglais, où tu as des murs entiers, couverts, avec des canapés où tu peux te vautrer. Bon, alors j'ai pas la place, c'était ça ou une chambre pour mes enfants. Bon, ouais, j'ai pris la chambre pour mes enfants. Mais du coup, il y a des livres partout, et il y en a même qui ne seront jamais défaits si je trouve pas la place, puisqu'il y a 70 cartons dans le grenier.
Enfin, il y a des livres, mais il y a aussi des bidons d'essence Esso, un casque de pompier, plein de chapeaux partout, un peu en vrac, des jolis meubles, évidemment. Il y a un plancher qu'il faut refaire.
Oui, il y a eu un dégât des eaux, c'est bien, vous arrivez petit quand il y a le dégât des eaux, c'est cool, hein. Non, il y a des... Bah ouais, c'est un peu le bordel. Je dois dire que c'est vrai que c'est le bordel.
Mais c'est libre, c'est libre.
T'as vu que ce que ça prend comme place, les livres?
Ouais, il y a des livres partout, c'est vrai.
Oui, ça
mais il y a quand même un meuble bibliothèque. On va peut-être commencer par là.
On a essayé.
Bien rangé.
On a essayé de ranger.
Et alors, c'est quoi? C'est des polars? C'est tout noir?
À 70%, c'est des polars. Mm-hmm. En français, moi, j'aime bien Franck Thiliez parce que je trouve que c'est toujours des scénarios vachement ficelés. Mm-hmm. J'aime bien les premiers de Maxime Chattam. Je trouve que c'était vraiment bien les premiers, là, Maléfice, In Tenebris, L'âme du mal, c'était chamé.
Qu'est-ce qui vous plaisait? Qu'est-ce qui vous plaît moins?
L'ambiance, l'atmosphère, je trouvais que c'était vraiment écrit comme pour un film, vraiment. Et ça, c'est vraiment bien. Et après, j'adore tout ce qui est polar du Nord, j'appelle ça les polars du Nord.
J'avais toute la collection Actes Sud Noir,
ouais.
Des Millenniums, Stieg Larsson, Camilla Läckberg, La Princesse des Glaces.
Ouais, j'aime bien aussi Ning Mankell, qui est pour moi...
Le maître.
Tu vois, puis derrière, il y a aussi des classiques, il y a d'autres trucs, il y a Florian Zeller, il y a Serge Joncourt, c'est un peu mélangé, hein, c'est le melting pot.
Alors là, on est sur la table de chevet, il y en a plein,
Il y a du Vernon Subutex, parce que j'aime beaucoup
Virginie Despentes, ouais.
J'aime beaucoup Vernon Subutex, je suis ravie que ce soit Romain Duris qui fasse le film, parce que j'aime bien.
Pour l'adaptation au cinéma, ouais.
J'aime bien son style, j'aime bien sa façon de dépeindre les gens, j'aime bien la façon qu'elle a de te coller dans son univers, et de te laisser le prendre et de le mettre à ta sauce. J'aime bien ces façons d'écrire.
J'ai le côté punk, comme Millennium en fait, quoi. Vous aimez bien.
Ouais, et puis il y a un côté aussi où on a le même âge, donc on a vécu les mêmes années trash, je pense. Et il y a toujours ce côté un peu où tu sens qu'elle est nostalgique de cette époque des années 80, un peu trash, un peu avec... les mecs sont un peu des losers, mais en même temps, c'est des losers auxquels tu t'attaches. Bah, typiquement, hein, Vernon Subutex.
Vous l'avez déjà rencontré?
Non, mais j'aimerais bien la rencontrer. Bon, alors, Nietzsche French, bon, ça, c'est de la détente. Hein. Ça, c'est pour...
Le jour de l'innocence perdue.
Alors, tu sais, c'est un couple américain qui écrit ensemble.
Qui s'appelle French. Et ça raconte quoi?
C'est des meurtres d'enfants, des kidnappings. D'accord. Tu vois, c'est toujours très, très dur. Mais,
wow,
ça, c'est pas mal aussi.
Le bourreau de Gaudi. Et vous l'avez lu plusieurs fois parce qu'il est, abîmé.
Non, je l'ai prêté. Non, ça, j'aime bien aussi Adler Olsen. C'est pas mal.
Chez Albin Michel, celui-ci, c'est Promesse.
Ouais.
Pierre Lemaître.
Pierre Lemaître.
Le prix Goncourt. Vous l'aimez
alors,
bien?
Alors, Pierre Lemaître, je l'ai découvert avec un livre qui a plusieurs années maintenant qui s'appelle Alex.
Avant le prix Goncourt.
Mais bien avant, cher ami.
Avant sa grande notoriété.
Bien avant sa grande notoriété.
Même s'il a toujours eu quand même un noyau de fans.
Il a eu un noyau de fans. Mais le truc de Pierre Lemaître, c'est pour moi, hein, la découverte de Pierre Lemaître, c'est ça. C'est Alex.
Alex.
Qui est pour moi le meilleur polar, sincèrement, hein, que, bah, tu vois, 2011. Donc il y a 6 ans, je l'ai découvert comme ça. Hein. C'est pour moi le meilleur polar de ces 10 dernières années.
Ça raconte quoi?
C'est l'histoire d'une fille, Alex, qui est une fille sublimissime, qui est une meurtrière, mais qui a des... C'est pas pour rien qu'elle est meurtrière. Elle a été un peu...
Il y a une enquête, c'est de son point de vue? C'est un enquêteur?
Il y a une enquête avec un commissaire, qui est un personnage que Pierre Lemaître aime bien. Et voilà. Après, j'aime bien Granger.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Ouais.
Il y a toute la collecte même.
Ouais, je crois qu'il y a toute la collecte.
Il y a d'autres livres partout là, il n'y a pas que du polar quand même.
Ah non, il n'y a pas que du polar.
Les sales blagues de Villemain.
Ah bah Villemain quand même, les gars. Wow. Et j'ai ça, alors ça, on m'a offert ça pour mon anniversaire il y a 5 ans.
Les mille et une nuits en grand format
c'est
illustré.
C'est sublime, c'est magnifique.
Gros livre.
C'est vraiment... Puis les mille et une nuits, j'aime l'histoire parce que quand tu sais qu'elle va se faire tuer...
Encore une femme rebelle, quoi.
Ah bah oui. Ouais. Bah alors, elle est encore plus que rebelle, elle est maligne. C'est-à-dire qu'elle lui dit, chaque soir, je vais te raconter une histoire. Et comme ça, bah, il est obligé, le matin, il peut pas la tuer, il est obligé d'attendre la suite de l'histoire. Ça va durer 10 ans, quand même, cette histoire, parce qu'elle lui fait des enfants, pendant qu'elle raconte, tu vois. C'est quand même... c'est un très beau cadeau. Mais on m'a offert des très beaux livres aussi, qui sont là-haut, dans la vraie bibliothèque. Tu vas voir, je vais te les montrer, qui sont pas mal. C'est le bordel, hein. Oh là là.
C'est bien.
Après, bon,
il y a des tableaux aussi très jolis.
Le carrelage, bah
il y a
oui,
des os en plastique pour votre chien, j'imagine.
C'est des os en corne de bœuf. Donc là, tu vois, t'as tous les... Ma fille, elle est illustratrice, elle fait des dessins.
Ah, ouais.
Il y a plein de bandes dessinées, il y a plein de classiques aussi.
D'accord.
Alors, mon fils a récupéré tous les classiques.
Alors, on va pas déranger, là, on est dans la chambre de votre fils, quand même.
Non, mais ça va, on va faire vite fait.
Donc là, il y a des livres anciens, ils sont à vous.
C'était, ouais, les livres de ma mère.
Oh, il y a les liaisons dangereuses de Laclos. Il a quel âge, votre fils?
Bah, 23.
Ah oui, ça va. Les fleurs du mal.
Oui.
Le rouge et le noir.
Ma mère, elle achetait ces éditions, tu sais, c'est relié en cuir.
Ouais, en cuir rouge, comme
voilà.
Ça, c'est très joli.
C'est pas mal.
Pour écrire l'histoire de sa vie, il faut d'abord avoir vécu « Aussi n'est-ce pas la mienne que j'écris ». Le début de Confession d'un enfant du siècle,
ouais.
D'Alfred de Musset.
Mais il est jeune quand il écrit ça.
Clac. Bon, je range. Oui, je ne veux pas abîmer. Hein.
Tu vois, alors j'ai mis les bouquins de photos que j'aime bien.
Helmut Newton. David Lynch.
Voilà, mais tous mes bouquins de photos, il y a quand même Jonvel, tout, j'ai tout. Et ben, tu vois, on en a mis quelques-uns là. Après, bon, t'as 2-3 bouquins de déco, on va pas se mentir. Tu vois.
Et la reine?
Eh ben, la reine, parce que quand même.
Elisabeth II, évidemment.
Bah, extraordinaire sa vie, non?
C'est quoi? C'est un livre de photos?
C'est un livre de photos, puis sa vie surtout. Attends. Oh,
très grand format chez Tachène, qui font toujours des très très beaux livres.
Ouais. Là, on peut pas y aller. C'est dommage que je vis avec mon papa et il dort dans la bibliothèque où il y a tout. Tu vois, la bibliothèque qui est là? Tu l'entreaperçois, là?
Ouais.
Voilà. Eh bien, il y a tous mes livres d'enfants. Et il y a tous les classiques encore. Il y a tous mes bouquins d'enfants. Mais les vrais Martine, les vrais Saturnin, les vrais Caroline, tout. Et dans les cartons que j'adorerais récupérer un jour, un endroit où mettre tout ça, j'ai des BD de malades.
Vous aimez la BD aussi?
Je trouve que c'est... Le dessin, c'est quand même... Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien Villemain, mais j'aime bien Coco. Tu vois, j'aime bien Coco, j'aime bien tous les mecs qui ont dessiné dans Charlie. Moi, j'avais une passion pour Reiser, mais vraiment, j'ai tous, d'ailleurs, je pense. J'avais une passion pour Cabu. Je trouve qu'il... Enfin, le dessin, et pas que le dessin politique, mais le dessin en général, je trouve que c'est une vraie façon de montrer quelque chose sans vraiment trop de texte, tu vois. Il y a plein de trucs immédiatement. C'est immédiat.
Dernière question rituelle, est-ce qu'il y a un livre que vous offrez à chaque occasion? Il y a un anniversaire, une soirée, un truc, vous savez que c'est avec ce bouquin magique qu'à chaque fois vous touchez la cible. Est-ce qu'il y a le bouquin que vous offrez à chaque fois?
Bah non, en fait, parce que moi je trouve qu'un livre doit ressembler à la personne à laquelle tu l'offres. Donc moi j'offre souvent des livres, mais j'essaie toujours de trouver le livre qui va avec la personne chez qui je vais. Tu vois, soit c'est un livre qui m'a touchée, Et c'est pour ça que quand on fait nos ateliers de lecture avec mes copines, on s'échange nos bouquins et on essaye de se prêter des livres qui correspondent à nos personnalités.
Ah, vous faites des ateliers de lecture?
Ouais, on aime bien faire des dîners de lecture et on s'échange nos bouquins avec Juliette Arnault, Émilie Mazoyer et la petite qui est là-bas.
Ah,
là. Hein, les ateliers lecture, on s'échange nos livres, on aime bien.
Hein. Donc et vous buvez du vin et vous discutez du livre que vous avez choisi?
On boit du vin et on discute du livre et on explique pourquoi on l'a choisi. Et généralement, après, quand on fait le dîner d'après, on s'échange nos livres, on se les rend, on en prend d'autres. Et ben, on se dit ce qu'on a aimé ou pas aimé et on fait des commentaires.
Ah, c'est beau.
Tu vois? Là, au prochain atelier de lecture, je vais offrir le troisième tome de Vernon Subutex à Émilie, parce que je sais qu'elle va aimer.
Ah oui, il y a des chances qu'elle aime.
Et je sais qu'elle ne l'a pas.
Émilie Mazoyer qui présente l'émission musicale tous les soirs sur Europe 1.
Exactement.
Merci beaucoup Valérie de nous avoir reçus.
Merci monsieur le bibliothécaire.
On vous laisse ranger vos 70 cartons de livres.
Ouais, j'aimerais bien.
Europe 1.
Retour en studio et dans un instant, direction les librairies pour flâner un peu dans les rayons. Ça manquait. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Et il est l'heure maintenant de flâner dans les librairies, toujours évidemment dans le respect des gestes barrières, etc. Avec nous aujourd'hui, Pauline Carayon du CNL, le Centre National du Livre, et Thibaut Raden de la librairie L'Écriture à Vaucresson. Salut à vous deux.
Salut Nicolas.
On commence avec vous, Pauline. Vous m'avez appelé tout à l'heure un peu paniqué en me disant « Ah, je me suis rendu compte que le livre dont je voulais te parler, t'en as parlé il y a deux semaines avec c'est donc Tonino Benacquista. » Toutes les histoires d'amour ont été racontées sauf une. Et je t'ai dit, vas-y, on se fait plaisir. C'est tellement un livre génial. Autant en parler plus de fois qu'on peut. Mais
ouais,
allez-y,
ouais,
racontez-nous quand même, comme si on n'en avait jamais entendu parler.
Ouais, d'accord. Moi aussi, bien entendu, c'est un livre vraiment coup de cœur, vraiment. Déjà, le titre, faut savoir que donc, toutes les histoires d'amour ont été racontées sauf une. Le titre, c'est un défi lancé par un personnage imaginaire à un autre personnage imaginaire créé par Léo. Léo, c'est le personnage principal du bouquin. Et Léo, en fait, bon, pour vous pitcher l'histoire, c'est un doux rêveur qui n'est pas misanthrope, mais qui est taiseux. Et le soir, il se promène dans Paris et il capture des moments de vie. Il photographie Paris sous un angle particulier. Et ses clichés, du coup, deviennent des allégories. Mais sa particularité à lui, à Léo, c'est d'imaginer des scènes de vie aux quatre coins de la planète, lorsqu'il regarde des séries. Et le problème, c'est que Léo est victime d'un accident, et cet accident-là, en fait, va remettre en question sa façon de voir le monde, et va le confronter à ses propres démons, et à sa, on va dire...
On ne dit pas de quoi il est victime.
On ne dit pas. Et à sa capacité... Non, je ne dis rien. Mais à sa capacité, on va dire, à réinventer le réel, à le réenchanter. Et en fait, dans ce bouquin, l'imagination, elle carbure à plein régime. Mais en fait, le roman, lui, ne cesse de nous parler de notre fébrilité, on va dire, face aux grands moments de l'existence, des regrets qui brûlent la conscience. Moi, j'aime bien ce genre de phrase. Bref. Et dans ce livre, tous les personnages sont majestueux et monstrueux à la fois. Et on va dire que la force du récit réside dans la multitude des portraits brossés par le narrateur. Par exemple, Léo imagine un dôme de verre à Brooklyn où se retrouvent des alcooliques non repentis.
Bah, il imagine, il regarde une série où c'est ce qui se passe aussi.
Justement. En fait, c'est l'art de... Enfin, on va dire, c'est toute la richesse de ce livre. On ne sait jamais s'il s'agit de la réalité ou de la fiction. Et en fait, ça illustre bien le dilemme de Léo. C'est-à-dire, continuer à vivre en composant avec ses fantasmes, la réalité et la fatalité. Parce qu'en fait, le défi, en fait, il a été lancé à Harold. Harold, c'est l'un des personnages imaginaires de Léo, qui est un écrivain cynique et taciturne. Bref, un peu à façon Bukowski. Et en fait, Harold va devoir raconter donc une histoire d'amour alors qu'il vient de perdre.
Il n'est pas à l'aise avec ça. Sauf que toutes les histoires d'amour ont déjà été racontées selon lui, donc il va falloir en créer une qui n'a jamais été racontée.
C'est ça.
Toutes les histoires d'amour ont été racontées sauf une de Tonino Benacquista, c'est chez Gallimard. À vous Thibaut Raden, notre spécialiste du Japon est de retour. Je vous laisse nous dire le nom de l'auteur.
Alors c'est Shuji Terayama, c'est pas très difficile. Et le livre c'est Devant mes yeux le désert aux éditions de l'Inculte. Alors pour le coup, déjà effectivement parlé pas mal de livres japonais, et alors celui-là n'a absolument rien à voir avec tout ce dont j'ai parlé et tout ce que je lis en général. Là, on est dans les années 70 quand le livre il est écrit et publié et il est traduit en France depuis 2 ans, je crois. Et c'est le seul livre qui est traduit alors qu'il a une œuvre qui est immense. Fujii Terayama, avant de lire ce livre, il faut quand même le remettre en contexte. C'est un gars qui est mort à une trentaine d'années et qui a tout fait dans sa vie. Il a été commentateur hippique, il a été poète, dramaturge, écrivain, cinéaste. Il a notamment fait un film qui a inspiré une des chansons des Bérets Noirs, qui est l'empereur Tomato Ketchup. Et donc là, il écrit un livre et il le préface lui-même. Alors, il est mort depuis, mais il le préface lui-même et il explique, et c'est très important dans la lecture du livre, qu'il a voulu écrire ce livre comme on écrit du jazz. Mmh. Et étant très amateur de jazz, je peux vous garantir qu'il a réussi. Il y a une décomplexité dans l'écriture, dans la narration, qui est digne du jazz, voire du free jazz, tout en étant hyper maîtrisé. C'est plusieurs personnages, tous à peu près aussi désespérés les uns que les autres. On est loin du Tokyo qui est très zen, qui est très beau, des haïkus qu'on connaît, tout ça. Là, c'est du très dur, comme le underground américain qu'on peut connaître. On va suivre 3 personnages principalement, dont 2 qui vont faire de la boxe. Un qui est un coiffeur bègue qui ne comprend même pas pourquoi il se bat, et l'autre qui est un gars qui a une colère profonde en lui. Et ces personnages-là vont en fait traverser la ville, vont rencontrer d'autres. Et c'est presque une exploration du Tokyo qu'on ne connaît pas, surtout le quartier Kabukicho, donc qui est le quartier qui est très très chaud à Tokyo. Et en fait, voilà, il nous dépeint cette vie, il nous dépeint ces personnages, il nous dépeint une manière de vivre qu'on ne connaît pas de ce Japon, qu'on ne connaissait pas non plus avant. Et c'est magnifique parce qu'il a une écriture, Fujii Terayama, qui est très rare. C'est-à-dire qu'on peut passer, sans même s'en rendre compte, de la littérature au théâtre. Mmh. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de lire du théâtre, mais je n'avais même pas vu le changement. C'est-à-dire dire à quel point il maîtrise son propre sujet. Et deux fois, il y a de la poésie. Chaque début de chapitre, il y a un petit haïku qui finalement, après lecture du chapitre, vous explique le chapitre que vous allez lire. C'est génial. C'est une grande beauté littéraire, c'est une grande maîtrise, c'est un grand livre qui sort de nulle part et qui va nulle part. En fait, c'est à nous de le porter. Et moi, j'avais été renversé par ma lecture. C'était incroyable.
Vous nous rappelez le titre ?
Devant mes yeux, le désert de Fujii Terayama.
Parfait. Et Pauline Carayon, donc Tonino Benacquista chez Gallimard. Ça s'appelle « Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une ». Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Nicolas.
Dans un instant, on rejoint ce grand enfant de Victor Dolande pour son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui, vous nous présentez un roman intitulé « Pierrot et Miette, héros des tranchées ». C'est signé Sophie de Mullenheim.
Oui, nous sommes en 1917, à quelques kilomètres du front où s'affrontent les Français et les Allemands. Dans une petite ferme, Pierrot, un jeune garçon de 12 ans, vit seul avec son grand-père depuis qu'une bombe est tombée sur la boulangerie de ses parents. Pierrot n'a que lui et Miette, une chienne qu'il a récupérée quelques années plus tôt. Le garçon et Miette ne se quittent jamais, sauf qu'un jour, des soldats entrent dans la ferme et réquisitionnent la chienne pour qu'elle serve de chien messager sur le front. Pierrot est tout simplement inconsolable.
Bon, mais ça s'arrête pas là, j'imagine. Qu'est-ce qu'il va faire, Pierrot ?
Il veut retrouver sa chienne et il est prêt à tout pour ça. Il sait que son grand-père ne le laissera jamais partir. Alors un soir, il prépare toutes ses affaires et à la nuit tombée, il décide de s'en aller. Léon vous lit ce passage où Pierrot prend la fuite.
Devant la porte, il hésite une seconde, se tourne vers le lit de son grand-père qu'il voit se découper dans le noir. Puis abaisse la poignée. Le mécanisme couine tout doucement. Pierrot serre les dents, retient sa respiration, ferme les yeux, puis passe dans la pièce à côté. Il souffle profondément, le plus dur est fait. Il enfile ses grosses chaussures, plonge la main dans la poche de son pantalon et dépose sa lettre bien à plat sur la table de la grande pièce. Puis, il sort, récupère son sac, dissimulé dans la paille et s'éloigne sans regarder en arrière. Son cœur bat la chamade. Une angoisse lui étreint le ventre, mais il ne rebrousse pas chemin. Il va de l'avant, sûr de lui. Miette l'attend quelque part. Il doit la retrouver.
On suit les aventures de Miette en première ligne. Cette chienne se révèle d'une efficacité redoutable auprès des soldats. Le jeune Cyprien, 19 ans à peine, est déjà dans les tranchées. Doit dresser Miette pour passer des messages entre la première ligne et l'arrière. L'instinct de Miette va sauver des vies sur le front. Pendant ce temps-là, Pierrot fait tout pour la retrouver.
Question rituelle, Victor, à partir de quel âge peut-on lire ce roman ?
C'est un roman que les enfants de 10 ans peuvent commencer à lire sans problème. La complicité entre la chienne et le jeune garçon va les faire craquer. Et puis vos enfants apprendront aussi beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale et sur le rôle essentiel de ces chiens messagers. Avec une petite sacoche autour du cou, ses amis fidèles ont délivré des informations capitales aux artilleurs, par exemple, pour ajuster les tirs sur l'ennemi. C'est un très très beau roman qui va à coup sûr marquer et toucher les jeunes lecteurs.
Et on rappelle le titre, Pierrot et Miette, héros des tranchées, de Sophie de Mühlenheim. C'est aux éditions Fleurus. Merci beaucoup Victor.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses, à Xavier Joly pour la programmation musicale, et puis évidemment Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. À la semaine prochaine pour d'autres livres.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.